Donc, il y a trois petits films, on aurait pu en choisir plein d'autres. J'en ai choisi trois qui ont une logique un peu chacun, une logique différente. Le premier est très court, 2 minutes, c'est simplement un collage de différentes séquences avec, comme vous allez voir, là, des courts textes qui expliquent qu'est-ce que le Black Bloc, et puis c'est entrecoupé de commentaires évidemment très critiques à leur égard par des politiciens et des politiciennes de France. Là, je suis désolé, j'ai pas. C'est un truc français, j'imagine. Après ça, vous allez voir, c'est un peu plus ludique et artistique. En fait, c'est un deuxième vidéo qui était tout en musique, qui montre des Black Blocs en action, mais qui se promène un peu autour de la planète et qui montre aussi que, évidemment, vous le savez sans doute, les Black Blocs ne sont pas les seules formes d'action militante ou de protestation, de manifestation qui a recours à la force dans des manifestations. On va voir des gens un peu partout sur la planète qui manifestent de façon turbulente et qui se confrontent à la police, même si ce deuxième vidéo, il met aussi en vedette, disons, la tactique du Black Bloc. Et puis le dernier vidéo, qui fait en fait 9 minutes, on va peut-être en présenter 2 minutes et demie simplement pour que vous voyez de quoi il s'agit. C'est d'un artiste de Strasbourg qui a organisé une performance en prenant comme modèle, disons, le Black Bloc.
Libre à dire. Un regard courbe comme un sabre, sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org. La radio qui aiguise les lames et qui étête les corps.
On est impressionné par le nom, mais ça fait super plaisir. Encore une fois, je ne vais pas du tout refaire l'introduction comme ça a été avant. Je voulais juste quand même dire que le but de ce soir, c'était pas tellement de faire un débat pour ou contre les Black Blocs. C'était pas forcément ça qui nous intéressait, mais c'était plutôt voir qu'est-ce que c'était, puis avoir la chance une fois d'approfondir le sujet, plutôt que d'en entendre parler par les médias avec les critiques habituelles. Mais la chance d'avoir Francis qui vient ici, qui était un des rares à vraiment creuser un peu plus et essayer de voir qu'est-ce que ça signifie derrière, qu'est-ce qu'il y a, d'aller un peu plus loin que les préjugés. Et c'est pour ça qu'on est content de sa présence et que je lui cède tout de suite la parole.
Ben, merci encore, merci d'être ici. Donc, je viens du Québec et je ne sais pas quelles sont les habitudes locales. Par rapport à la police et à la sécurité, mais généralement quand j'anime une discussion sur ce sujet précis, j'encourage les gens évidemment il n'y a personne ici dans la salle qui a jamais commis d'actes criminels et on a pu voir des Black Blocs sur vidéo où on entend parler, mais donc on discute évidemment, on discute de choses auxquelles on n'a pas nécessairement participé, n'est-ce pas? L'histoire du livre, très brièvement, parce qu'il y a un livre, puisqu'il y a Fahrenheit 451 qui est là, donc il faut quand même faire de la pub un peu, faire survivre les librairies anarchistes. Donc l'histoire du livre, en fait, il est lié directement à l'histoire des Black Blocs, évidemment. C'est dans la période de la grande période de l'altermondialisme, donc après Seattle, dont on a évoqué l'histoire est très brièvement dans le premier vidéo. Il y a eu le Sommet des Amériques dans la ville de Québec en avril 2001. Le Sommet des Amériques, c'est un projet de libéralisation des marchés pour les capitaux, évidemment, pas pour la main-d'œuvre, dans toutes les Amériques sauf Cuba, évidemment. Et donc, il y avait 34 chefs d'État qui étaient dans la ville de Québec. Et il y a eu, ça a été, disons, l'apparition des Black Blocs, en tout cas dans les médias et pour l'opinion publique et pour les autorités au Québec et au Canada. Ça a été là que les Black Blocs sont nés au Canada, même s'il y en avait eu un peu avant. Et donc, une maison d'édition m'avait demandé de recueillir, en fait, des communiqués, parce qu'il y avait beaucoup de communiqués qui circulaient, produits par les Black Blocs, diffusés sur des plateformes en open edition comme IndyMedia à l'époque. Donc, il y en avait en anglais, en français. Et il m'avait proposé, en fait, de recueillir des communiqués et de faire une préface de 5-6 pages. Et le problème, c'est qu'en fait, ma préface, finalement, a fait 85 pages. Et parce que je voulais travailler le sujet correctement, j'avais fait l'effort, disons, de rencontrer des gens qui avaient participé à des Black Blocs, leur poser des questions, essayer de comprendre leur motivation, leur justification. Et donc, ce livre est paru une première fois en 2003, donc, avec les communiqués. Après ça, il a été repris en 2005 aux ateliers de création libertaire en France. Mais là, les communiqués avaient été enlevés parce que j'avais rejeté en plus 30 pages. Et donc, les communiqués sont en accès libre, là, si ça vous intéresse, sur le site de Lux. Vous avez un document là en accès libre sur, je crois que ça s'appelle d'ailleurs Communiqué des Black Blocs, où il y a peut-être une dizaine de textes produits par les Black Blocs et sur les Black Blocs, mais on est vraiment dans la période, là, fin des années 90, début des années 2000. Et la dernière édition du livre, la date de 2016. Donc, ça c'est pour le livre. Là, on est en Suisse, j'en suis bien conscient. Malheureusement, je n'ai pas une grande connaissance de ce qui s'est passé en Suisse. Je sais qu'il y a eu des Black Blocs, évidemment, par exemple, à la fin des années 90, à tous les Davos, les Black Blocs attaquaient le Forum économique mondial et que finalement, la police a mis en place des mesures de sécurité pour les empêcher d'y arriver. Ici, à Genève, entre autres, je sais qu'il y avait eu pendant le sommet du G8 à Évian, il y avait eu des manifestations et des Black Blocs, d'ailleurs, dans la ville de Genève. Même un Black Bloc de la police, pour les gens qui s'en rappellent. En fait, le samedi, l'usine avait été prise d'assaut par un Black Bloc de policiers. En fait, l'usine était là où, sur ce qu'on appelait dans le mouvement altermondial, ce centre de convergence. Il y avait aussi, je pense, Indymedia qui était dans l'usine. Et le samedi après-midi, pendant une manifestation, pendant le contre-sommet contre le G8, donc, il y avait des tables devant l'usine, si j'ai bien compris. Et un Black Bloc d'une quinzaine de personnes est arrivé en criant, en disant « il faut se barricader, la police arrive, il faut se barricader, il faut se barricader ». Tout le monde s'est barricadé, mais le Black Bloc a sorti ses brassards de policiers. Ils ont procédé à l'arrestation de tout le monde. Et vers 5 heures, devant l'usine, la police de Genève, peut-être, j'imagine, je ne sais pas, les juridictions des corps policiers, a fait une conférence de presse pour expliquer qu'ils avaient effectivement utilisé cette tactique pour entrer dans l'usine et neutraliser le centre de convergence. Et je sais qu'à Zurich, par exemple, encore évidemment en Suisse, il y a des, entre autres pendant le 1er mai anticapitaliste, il y a souvent des Black Blocs. Mais donc, si vous voulez parler de la Suisse, vous en parlerez évidemment, mais je ne suis pas nécessairement la personne de référence. Donc très rapidement, un Black Bloc, probablement la plupart d'entre vous le sait, mais je le précise quand même tout le temps parce que c'est important. Le Black Bloc, ce n'est pas une organisation internationale. En principe, le Black Bloc, par définition, n'a pas de chef. Ce n'est pas une organisation permanente. Ils n'ont pas de locaux, ils n'ont pas de numéro de téléphone, ils n'ont pas de compte en banque, j'imagine. Désolé pour la Suisse. Et en fait, un Black Bloc, c'est une tactique que vous actez en manifestation. Donc, je dis souvent qu'avant la manifestation et après la manifestation, techniquement, le Black Bloc n'existe plus. Et aussi, chaque Black Bloc est, par définition, différent dans sa composition. Différent dans ce qu'il fait et ce qu'il veut faire et ce qu'il peut faire. Il y a souvent des Black Blocs qui manifestent et il ne se passe absolument rien de spécial dans la manifestation. Le simple fait qu'il y a un Black Bloc exprime une critique radicale, anticapitaliste ou contre l'État, et on peut avoir un Black Bloc dans une grande manifestation où il y a aussi un cortège avec la bannière syndicale, un cortège avec tel parti politique, et donc le Black Bloc n'est qu'un cortège parmi d'autres. Et dans les Black Blocs, c'est très difficile, évidemment, d'avoir un profil socio-économique, disons, ou démographique de qui est dans le Black Bloc. Et une personne peut participer à un Black Bloc une fois dans sa vie et après ne plus jamais participer à un Black Bloc, ou au contraire, participer à plusieurs Black Blocs et essayer de retrouver d'autres Black Blocs au fil de ses expériences militantes. On pourra parler de la composition, si vous voulez, plus en détail, là. Ça a été mentionné rapidement dans la première vidéo, donc ça, vous le savez aussi sans doute, le Black Bloc, c'est une création, dans la mesure où le Black Bloc, c'est quelque chose de très précis d'un point de vue presque esthétique. C'est pour ça que je voulais montrer là, la dernière vidéo où il y a une représentation artistique du Black Bloc, parce que le Black Bloc est presque avant tout une proposition esthétique. C'est tout le monde est vêtu en noir et masqué, donc c'est facile à reproduire aussi, mais ça a aussi un impact visuel qui peut être très impressionnant. Et donc, même si tous les mouvements sociaux, en fait, dans l'histoire, qu'ils soient d'ailleurs d'extrême droite ou de gauche, ou les suffragettes, ou les mouvements paysans, ou, etc., ont à certains moments eu recours à la force, à du saccage, à du sabotage, à la confrontation avec les forces de l'ordre, le Black Bloc est une forme particulière de par son esthétique, et on peut en retracer donc l'origine très précisément à Berlin-Ouest, en fait, pendant la guerre froide, dans ce qu'on appelle le mouvement des autonomes, probablement en 1980. Là, il y a des débats exactement à savoir qui a eu l'idée du terme. Est-ce que ça vient de la police? Est-ce que ça vient d'un juge? Est-ce que ça vient du mouvement lui-même? En tout cas, en 1980, j'ai retrouvé des traces là, au moins 2-3 traces là, où on parle des Black Blocs en allemand, évidemment. Et donc, le mouvement autonome, pour les personnes qui ne le savent pas, c'était principalement des squatteurs, en fait, à Berlin-Ouest, inspiré par l'autonomie italienne aussi, Il y avait de l'autonomie en Espagne, évidemment, et ailleurs, mais en Allemagne, ça s'est diffusé dans les Pays-Bas et ailleurs. Donc, ce qu'on appelait l'autonomie, c'était un non-mouvement, d'une certaine manière, qui revendiquait justement son autonomie. Autonomie par rapport à quoi? Par rapport à l'État, par rapport au capitalisme, par rapport aux grands médias, mais aussi, peut-être, c'est ça le plus polémique, par rapport aux grandes institutions de la gauche et de l'extrême-gauche. Donc, on est dans les années 80, donc il y a des partis communistes, il y a des partis socialistes, il y a des syndicats, il y a le Parti vert qui est très important à l'époque en Allemagne dans les années 80. Il va y avoir d'immenses mobilisations contre le nucléaire, entre autres. Et les autonomes sont à l'extérieur de toutes ces institutions, y compris les institutions de gauche et d'extrême gauche. Ils y sont opposés. Ils considèrent que c'est un problème d'être institutionnalisé dans un rapport à l'État. Et il s'y oppose, pas avec la même virulence qu'il s'oppose aux institutions de l'État et de la police et de l'extrême droite, mais il s'y oppose aussi, ils ne servent pas leurs intérêts. Ils ne se reconnaissent pas dans leur porte-parole, ils ne se reconnaissent pas dans leur programme et dans leur projet. Et donc, ils sont aussi des troubles faits pour la gauche et l'extrême gauche, on pourra en reparler. L'autonomie à l'intérieur, ça voulait dire, donc ça c'est par rapport aux institutions extérieures de l'autonomie. Évidemment, le squat étant une sorte d'incarnation du principe d'autonomie, et à l'intérieur, le principe d'autonomie impliquait que personne ne parlait au nom de l'autonomie, que les autonomes fonctionnaient de manière non hiérarchique, de manière égalitaire, libre, voire même favorisaient ce qu'on a appelé la politique à la première personne. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si on est une réunion d'autonomes, moi, je peux dire, moi, je pense que ce serait une bonne idée de faire telle chose, mais on ne va pas nécessairement toujours décider tous ensemble et tout ensemble ce qu'on va faire. Il est possible que moi, en fait, je dise, moi, j'ai envie de faire ça. S'il y a des gens qui veulent le faire avec moi, vous venez, mais ça n'engage pas nécessairement tout le monde et on ne le fait pas au nom de tout le monde non plus. Donc ça, c'est l'idée d'autonomie à l'interne et qui est évidemment cohérente avec l'idée d'autonomie à l'externe. Et dans ce mouvement... qui refusait de s'appeler mouvement, mais qui en était un quand même d'un point de vue social, disons, sociologique, est apparue donc cette forme d'action très particulière qui était le Black Bloc. Donc, on est dans les années 80, donc la mode était un peu différente. C'était pas du coton, c'était des vestes de cuir. Ils avaient des casques de moto, mais ils étaient aussi en noir. Et en fait, ils avaient deux fonctions dans les manifestations. Ils avaient une fonction offensive, donc on les retrouvait dans des attaques contre les néo-nazis, on est en Allemagne, n'est-ce pas, contre la police, contre des constructions des projets de centrales nucléaires ou de déploiement de missiles. Parce que dans les années 80, en plus, les États-Unis avaient eu la très bonne idée, avec laquelle le Canada est tout à fait d'accord, en fait, d'avoir des missiles à moyenne portée pour faire la guerre nucléaire juste en Europe. Nous, au Canada, on disait, c'est génial, en fait, comment se fait qu'on n'y avait pas pensé avant. Mais les Allemands n'étaient pas d'accord, c'est tout, totalement chiant, d'ailleurs. Et donc, les autonomes n'étaient particulièrement pas d'accord avec cette idée. Donc, ils étaient, le fer de lance du combat contre ces déploiements de missiles à courte et moyenne portée. Et puis, donc, ça, c'est offensif. Et ils étaient aussi dans les mobilisations en solidarité avec les sans-papiers. Il y avait déjà des sans-papiers à l'époque, et oui. Et du point de vue défensif, peut-être plus intéressant d'une certaine manière, considérant l'histoire du mouvement autonome, les plus gros black blocs, en fait, ont été des black blocs défensifs qui ont défendu des squats, où là, en fait, vous avez eu des centaines d'autonomes qui arrivaient des différentes villes du réseau des squats quand on entendait qu'il y avait un avis d'expulsion contre un squat. Ça pouvait être à Berlin ou à Hambourg ou ailleurs. Et là, vous pouviez avoir un black bloc de 1 000, 1 500 personnes qui défendaient en fait physiquement le squat. Dans certains cas, ils ont même volé des tracteurs, ils ont creusé des tranchées. Et souvent, après les combats de rue pendant la journée, pendant la nuit, des actions autonomes ciblaient par exemple la maison du juge avec des cocktails Molotov, le juge par exemple qui avait signé l'avis d'expulsion ou des choses comme ça. Et ils ont effectivement freiné ou arrêté des expulsions de squat dans certaines occasions. Donc, c'est très rapide, évidemment, tout ça. Pour faire encore plus rapide, parce que je n'ai vraiment pas le temps, je veux parler d'enjeux plus précis. Comme vous le savez sans doute, on le voit très bien dans le petit film. Le Black Bloc, donc, qui part de Berlin, il va se diffuser principalement dans le réseau punk, par exemple, même dans la scène musicale punk, à travers les tournées de groupes musicaux où, en fait, il y a des zines qui circulent et les spectateurs et les artistes parlent des Black Blocs. En plus, il y a des chansons qui font l'apologie de l'émeute, etc. Et donc, cette idée du Black Bloc, elle circule à travers la scène anarcho-punk en Europe. en Scandinavie et ailleurs, et elle traverse l'Atlantique aussi comme ça, et on a les premiers Black Blocs au tout début des années 90 aux États-Unis et au Canada. Mais c'est vraiment, ça a été mentionné, avec la fameuse bataille de Seattle, donc en 99, c'est la montée en puissance du mouvement altermondialiste, que là, un Black Bloc d'à peu près 250 personnes va entrer en action. J'ai malheureusement pas le temps de décrire la journée là, du 30 novembre, mais pour le dire très rapidement, il y a une action de blocage organisée par des adeptes de la désobéissance civile qui bloquent l'accès au Congrès au début du Congrès de l'OMC. Les images sont célèbres, c'est des gens qui sont enchaînés les uns aux autres, accroupis et qui se font matraquer et gazer par la police de Seattle qui est totalement débordée parce que le blocage est trop efficace. Et en fait, la police de Seattle attaque si bien ceux et celles qui pratiquent la désobéissance civile que vers 11h, en fait, la police de Seattle n'a plus de munitions, n'a plus de gaz lacrymogène et doit en fait envoyer des policiers chercher des munitions dans les postes de police de la région métropolitaine. Et c'est à ce moment-là qu'en fait un Black Bloc va entrer en action, donc 3 heures après le début de la violence policière, même si on a souvent dit que c'était le Black Bloc qui avait provoqué la violence policière en fait, mais 3 heures après la violence policière, le Black Bloc de Seattle rentre en action à plusieurs kilomètres du centre de congrès. En fait, il ne s'est pas approché du centre de congrès, et ce qu'il cible en fait, c'est les fameuses vitrines de McDonald's, Nike, Gap et les banques, etc. Et après 45 minutes, une heure, il s'évapore et pendant 2 jours, la bataille va continuer. Et donc, ce Black Bloc de Seattle, il est important parce qu'il a tellement été capté par les images de médias de masse qui vont diffuser ces images qu'en fait, la réputation du Black Bloc va déborder les réseaux de fanzines et de indie media et de la capacité, mettons, du réseau anarcho-punk de diffuser l'histoire de cette méthode. Et en fait, on pourrait dire que c'est les grands médias de masse qui font la publicité du Black Bloc. Et comme c'est quelque chose de très esthétique, et en fait, plusieurs personnes se sont dit « Ah, mais ça a l'air génial, ça a l'air tellement facile à faire, le prochain sommet, on va organiser un contre-sommet et nous, on va faire la même chose. » Et il y a des études, je suis prof, donc j'en profite pour faire un peu de travail. Il y a des études de collègues en sociologie des médias ou sociologie de la communication qui ont bien montré d'ailleurs que le Black Bloc de Seattle, il est hyper visibilisé par les médias et que la visibilité que donnent les médias de masse au Black Bloc attire en fait l'attention vers des sites internet d'information sur l'anarchisme. Donc à l'époque, il y avait Indymedia, Infoshop, etc. Donc après les grands sommets, vous avez une explosion en fait de visites sur les sites internet anarchistes. Donc d'une certaine manière, le Black Bloc, même s'il est contre les médias de masse en fait, doit une part de sa popularité aux médias de masse, et ça attire en fait des gens vers des points d'information sur l'anarchisme. Donc ça, c'est Seattle. Il y a eu Québec, il y a eu Gênes. Gênes, on en parle. Malheureusement, à Gênes, la police a abattu à bout portant un manifestant. Donc ça a un peu déstabilisé tout le monde. Les chefs d'État, à ce moment-là, ont décidé de ne plus tenir de grands sommets dans les centres-villes, dans les grandes villes. Donc ça a réduit la capacité de mobilisation du mouvement. Les grands sommets se sont cachés, en fait, dans des lieux inaccessibles. Évian, c'est un peu ça, la logique, d'une certaine manière. Puis, aux États-Unis, évidemment, vous avez entendu parler du 11 septembre 2001, j'espère. Si vous n'en avez pas entendu parler, je vous en parlerai à la pause. Et donc, ça a cassé, en fait, ces deux événements-là, chacun à leur manière, ont cassé un peu la montée en puissance de l'altermondialisme, l'ont déstabilisé, surtout en Amérique du Nord. Et dans les années qui ont suivi, plusieurs disaient le Black Bloc est mort, c'est-à-dire le Black Bloc comme tactique n'est plus opérationnel parce qu'en fait la répression est trop forte, la violence manifestante est trop discréditée, on est dans un autre contexte politique et on ne peut plus avoir recours à la tactique du Black Bloc, c'est une mauvaise tactique qui est désuète. Le problème avec ce verdict, avec ce diagnostic, c'est qu'en fait il ressurgit tout le temps, il est tout le temps repris. Donc, il a été repris en 2003 à Évian, il a été repris en 2005 en Écosse contre le sommet du G8 dans la rase campagne. Il a été repris au G20 à Toronto en 2010, où un Black Bloc a complètement défoncé les vitrines du centre-ville pendant 45 minutes sans subir aucune arrestation. Il a été repris par Occupy, même si on le sait souvent moins, mais certains mouvements d'Occupy ont eu recours au Black Bloc. Au contraire, il y a eu des Black Blocs dans leurs actions. À Oakland aux États-Unis, à Rome, entre autres. En Égypte, il y a eu un Black Bloc au Caire pendant ce qu'on a appelé le printemps arabe. Dans la grande grève étudiante du Québec de 2012, dont vous avez peut-être entendu parler, il y avait des Black Blocs régulièrement. en 2016, en France, vous avez commencé à voir ce qu'ils ont appelé en France le cortège de tête, dont on pourra parler si vous voulez, qui est une sorte d'innovation par rapport à la tactique du Black Bloc. Et aux États-Unis, depuis 2017, il y a eu des Black Blocs contre Trump. Donc, même le 20 janvier 2017, quand Trump est intronisé, il y a un Black Bloc à Washington, avec 200 arrestations d'ailleurs. Et aux États-Unis, en Amérique du Nord, en ce moment, les Black Blocs sont, disons, le fer de lance de la lutte contre les nouvelles, le nouveau déploiement des néo-nazis dans les rues en Amérique du Nord. C'est le Black Bloc qui est une forme, une tactique de combat, d'affrontement. On les a vus à Charlottesville en 2017. On les voit sur des campus américains, on les voit à Montréal aussi, contre des événements néo-nazis. Très rapidement, j'imagine que vous en avez beaucoup entendu parler, le Black Bloc est régulièrement dénigré. C'est toujours la même chose, en fait. Dans la mesure où j'ai fait 3 éditions, rééditions du livre, j'ai essayé de mettre à jour là, les discours pour et contre. Ben, en fait, c'est pas beaucoup de travail, parce que c'est toujours la même chose. Ça en dit beaucoup sur justement le rapport de l'autonomie avec les institutions. Évidemment, c'est pas parce que vous êtes autonome que vous êtes dans un Black Bloc ou à la limite, vous pouvez avoir une position critique sur les Black Blocs, mais toutes les institutions sont contre le Black Bloc, contre la tactique du Black Bloc. On l'a vu avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, que vous soyez à l'extrême droite ou à l'extrême gauche en termes de parti, que vous soyez dirigeant de syndicat, que vous soyez dirigeant d'organisations non gouvernementales, évidemment la police, les politiciens, les journalistes, les médias, les éditorialistes et des collègues universitaires disent à peu près tout le temps la même chose sur les Black Blocs. C'est inefficace, c'est nuisible, ce sont des jeunes casseurs, ils ne comprennent rien aux enjeux, ils détournent les manifestations, ils s'approprient les manifestations. Pour des motivations pour le moins troubles. En fait, ils n'ont probablement pas d'autre motivation que simplement le plaisir de tout casser, que ça n'a aucune signification politique. Récemment, il y a même eu des moments dans l'histoire, si on peut dire ça comme ça, où vous avez eu des dons à Seattle, c'est bien documenté, mais ailleurs, où vous avez eu des représentants ou des militants et militantes de groupes liés à des organisations non gouvernementales, par exemple, qui se placent devant des vitrines pour protéger les vitrines de McDo ou de banques contre les Black Blocs. Et vous avez eu des situations où, en fait, des gens sautent sur les Black Blocs pour les neutraliser et même les livrer à la police. Dans les derniers mois, en fait, ces progressistes, en fait, ont troqué, disons, leur défense des vitrines de banques et de McDo pour la défense de la liberté d'expression des néo-nazis. Donc ça, c'est très bizarre. Il y a des questions de priorité qui m'échappent. Mais donc, en Amérique du Nord, il y a beaucoup de débats en ce moment chez les progressistes sur la liberté d'expression comme absolue. Et donc, si vous êtes un Black Bloc et que vous attaquez des néo-nazis, vous êtes contre la liberté d'expression. Et ça, c'est pas bien, c'est méchant. Et il faut débattre avec tout le monde, sinon on nuit à la démocratie. Donc, il faudrait débattre avec les néo-nazis, apparemment, s'ils acceptent de sortir de leur voiture, j'imagine. Donc ça, c'est pour les débats. Évidemment, vous aurez compris que je le fais très vite, mais en tout cas, il y a toujours des arguments contre les Black Blocs, dont des arguments, ma foi, qui ont pour effet, finalement, de prendre la défense dans la réalité du système et même des éléments les plus désagréables du système, comme l'extrême droite. Enfin, je réalise que j'ai déjà écoulé mes 20 minutes qu'on m'avait accordées. J'ai quelqu'un en plus derrière moi, donc c'est dangereux là, si je dépasse trop. Je voulais aborder quatre enjeux importants que j'ai absolument pas le temps d'aborder finalement. Je vais donc faire un tri là-dedans. Deux choses peut-être pour terminer. La tactique des Black Blocs, c'est en tout cas celle qui est reprise là, par le mouvement altermondialiste. C'est incarné dans un contexte où il y avait évidemment d'autres formes de lutte autonome, combative, entre autres ce qu'on va appeler les Pink Blocs ou blocs carnavalesques. Donc ça peut être comme à Prague en 2000, c'était des femmes déguisées en fées géantes avec des fanfares de samba ou les queers qui sont déguisés avec des paillettes, etc. Et au début des années 2000, c'est le Pink Bloc et le Black Bloc étaient vraiment présentés comme des forces contradictoires et en opposition, finalement. Mais au fil des années, quand on observe plus attentivement, on réalise en fait qu'ils sont très souvent alliés et qu'il respecte en fait ce que, à Montréal, on a nommé le respect de la diversité des tactiques ou le principe de respect de la diversité des tactiques, c'est-à-dire que d'un point de vue autonome, on doit admettre qu'on n'a pas la connaissance et on n'a surtout pas l'autorité pour déterminer quelle est la meilleure manière et la manière la plus juste et la manière la plus efficace de protester et de contester. Et qu'en fait, pour différentes raisons, tel groupe peut penser que c'est cette manière et nous, on pense que c'est cette autre manière. Mais il ne faut pas, en fait, parce qu'il y a une diversité d'approches, penser que c'est un problème. En fait, c'est une force, c'est une sorte de convergence, c'est une sorte de coalition. Et il faut trouver une solution pour que toutes les personnes qui ont une perspective radicale, anticapitaliste et éventuellement contre l'État, puissent quand même manifester ensemble, même si on ne manifeste pas dans les mêmes formes. Et donc, c'est comme ça que la convergence des luttes anticapitalistes à Montréal et le comité d'accueil du Sommet des Amériques ont développé la notion qui était déjà pratiquée de toute façon sur le terrain, mais l'ont conceptualisée, disons, dans le discours du principe de respect de la diversité des tactiques, c'est-à-dire on s'entend entre nous pour ne pas se dénoncer publiquement, sachant que si on se dénonce publiquement, ça fait le jeu des autorités. Éventuellement, on peut avoir des débats autour d'une bière ou dans l'intimité au sujet des avantages et des désavantages de chaque tactique, mais on le pense de façon coalisée. Et donc, dans la réalité, ça a donné des moments où, en fait, les Black Blocs et, par exemple, les armées de clowns révolutionnaires, comme en Écosse ou en 2005 ou en 2009 à Strasbourg contre le sommet de l'OTAN, ou des Pink Blocs, sont été, en fait, en action presque coordonnée, en fait, d'alliance et pas du tout d'opposition, même si dans l'apparence, en fait, les deux formes, les deux tactiques sont, apparaissent totalement différentes. Et finalement, là, je finis réellement là-dessus. On a reproché au Black Bloc, dans un reproche, disons, plutôt sympathique du côté des forces progressistes, de faire peur, en fait, et donc de nuire aux mobilisations et d'être d'incarner en fait une démarche de privilégié, une démarche premièrement très viriliste, donc principalement masculine, qui exclut en fait les femmes, mais qui est aussi simplement une tactique principalement appropriée pour des jeunes hommes blancs, mais qui aliène en fait les populations racisées aux États-Unis, par exemple, les populations africaines-américaines ou les groupes autochtones des Premières Nations. Assurément, il y a des critiques à faire sur les dynamiques internes à certains Black Blocs. Assurément, dans les Black Blocs, vous pouvez retrouver effectivement des hommes très virilistes qui ont une conception très machiste de la radicalité politique. Être radical politiquement, c'est de lancer une pierre contre un policier, par exemple, et les autres formes, ce n'est pas intéressant. Mais quand on regarde plus attentivement plusieurs exemples, on voit que la réalité est plus complexe. Par exemple, au Brésil en 2013, dans les mobilisations contre la vie chère, un syndicat d'enseignants a en fait déclaré en Assemblée générale que le Black Bloc était toujours bienvenu dans ces manifestations. Il y a eu des mots d'ordre à ce sujet, des bannières. Les professeurs brésiliens manifestaient avec des bannières en disant « le Black Bloc, c'est nos élèves, en fait ». Et donc là, il y a vraiment quelque chose de... c'est une institution syndicale qui admet l'intérêt... Et sa solidarité avec le Black Bloc, vous avez eu ça aussi dans le mouvement NOTAV, que vous connaissez peut-être, contre la construction d'un train à haute vitesse, là, pas très loin d'ici, qui est une lutte populaire, d'ailleurs, c'est pas ce mouvement, mais où des Black Blocs sont apparus à certaines occasions, et où il y a eu des gros rassemblements, je pense à Turin, entre autres, sur une place publique, on peut voir ça sur vidéo, là, où la foule, en fait, des milliers et des milliers d'Italiens et d'Italiennes crient « Nous sommes tous Black Bloc, nous sommes tous Black Bloc », en solidarité. Et au fil des années, en tout cas pour ce que je connais, parce qu'on ne peut pas parler pour tous les contextes évidemment, mais il y a des moments en fait où clairement dans les Black Blocs, on n'a pas seulement des hommes blancs. Dans les Black Blocs en 2013, entre autres les Black Blocs de Rio de Janeiro, Sao Paulo c'est un peu différent, mais Rio de Janeiro, il y avait clairement des personnes racisées, pauvres, des quartiers pauvres. Il y avait des femmes. En 2010, dans les mobilisations contre les Jeux olympiques à Vancouver, donc au Canada, il y a eu une alliance avec le Black Bloc et les manifestations des gens des Premières Nations, donc des Autochtones, où en fait le Black Bloc s'est retrouvé appelé par les anciens, comme on dit, à protéger la manifestation autochtone contre les Jeux olympiques qui se faisait attaquer par la police. Et au Québec, maintenant, depuis au moins 5-6 ans, même s'il y a encore des problèmes au niveau de la division sexuelle du travail dans les Black Blocs, on n'est plus à la situation du début des années 2000 de l'altermondialisme où en fait les femmes dans les Black Blocs disaient en fait on est presque jamais en première ligne et donc on exécute des fonctions qui sont utiles pour le Black Bloc comme la surveillance de la police ou des premiers soins mais qui ne sont pas valorisées au sein du Black Bloc et quand on fait les debriefings avec les camarades en fait les camarades parlent de leurs exploits presque guerriers et militaires, mais en fait, n'ont aucun intérêt à savoir ce que nous, on a vécu en participant au Black Bloc, parce qu'en fait, nos tâches sont subalternes. Donc, sans vouloir renchérir sur la division sexuelle du travail et la hiérarchisation des tâches, clairement, en tout cas, ce qui se passe en Amérique du Nord depuis quelques années, 5-6 ans au moins, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de femmes, c'est-à-dire cette division sexuelle du travail qui existe encore en partie, elle est plus diffuse. Et il y a de plus en plus de femmes, en fait, qui se retrouvent justement en première ligne. Et en fait, à Montréal, maintenant, il y a même, à certaines occasions, en fait, des Black Blocs dans lesquels il y a des groupes d'affinités composés uniquement de femmes. Et ces femmes disent que c'est d'ailleurs bien plus agréable d'être en Black Bloc juste entre femmes, qu'on s'y sent plus en sécurité, que c'est plus efficace, que la communication circule mieux et qu'on n'a pas à se préoccuper de ce héros viriliste machiste qui pense être le seul à pouvoir faire la révolution.
On va ouvrir le débat. Ceux qui connaissent un peu le fonctionnement des rencontres de Lissignol, on essaie que ce soit pas trop des questions-réponses avec Francis, mais vraiment un débat ouvert pour chacun. Et puis, comme on est nombreux, il y aura peut-être besoin quand même à un moment ou l'autre d'un tour de parole. Je ne sais pas si quelqu'un veut se dévouer ou si l'un de nous prendra la question. Mais sinon, on lance comme ça et puis on interviendra.
Je veux bien faire circuler la parole. Donc, l'idée, c'est de lever la main si vous voulez prendre la parole. Et puis, les règles, c'est d'être bref.
Peut-être une dernière chose, comme ça va peut-être durer un certain nombre de temps. On rappelle qu'il y avait une soupe et que c'est à prix libre, donc c'est jamais avant de partir si vous avez bien aimé la soupe et qu'elle était très bonne d'ailleurs. J'en profite pour remercier les gens qui ont participé. On a encore une liste de mails pour les gens si vous voulez être informés des prochaines rencontres. Donc, si jamais, inscrivez votre adresse email sur le papier sur la table.
Et il y a des flyers pour la prochaine rencontre qui aura lieu dans 2 semaines. Est-ce que je vais vous dire 2 mots puisque tu es là? On te prend un coup comme ça, pas du tout.
Bonsoir, on peut se revoir dans 2 semaines.
Donc, là, les flyers, servez-vous.
Une main qui s'est
Le sujet dans 2 semaines.
Mais ici, là, c'est.
L'antiféminisme. L'antiféminisme en Suisse et un peu ailleurs dans le monde aussi. Mais à partir aussi d'une étude qui a fait sur l'antiféminisme dans les parties d'extrême gauche en Suisse, donc de voir que ce n'est pas l'exclusivité de la droite et de voir dans le fond ces diverses expressions au sein de la gauche politique et plus largement ces différentes formes. Au Québec, au Canada, mais ici aussi en Suisse, en Europe. Voilà. Et savoir les démasquer, parce qu'ils sont très habiles. Et c'est ça, un atelier de déconstruction et de début.
Coupé court et coupé net. Libre Radio pour une saine séparation de l'homme et de son vie. Aragon, pour ainsi dire. Je restais avec cet appendice congestionné, terriblement ridicule. Libre Radio, les couilles dans le bocal au fond du puits, le puits au fond du jardin.